conclusion. Donc, si la Sicu est à 23h47, alors vivement demain.
Bah, j'ai pas vraiment de conclusion, moi, tu sais. Par contre, on peut réattribuer les responsabilités respectives, et notamment la nôtre, à toi et à moi. J'ai tendance à penser que si tout le monde les assumait, ces responsabilités, on s'en porterait mieux. Je classe ces responsabilités en quatre groupes. Celle des professionnels de santé, okay. Celle des vautours, celle de la société en général, avec tout son attirail de loi et tout le règlement, tout ça, et la nôtre. Celle de malades probables, de victimes de possibles handicaps, de consommateurs quasi à coup sûr de médoc ou de thérapie.
Alors commençons par les professionnels de santé. Pendant les toubibs avec les tripes des pharmaciens.
Non, il ne s'agit pas de ça. Les toubibs peuvent être aussi bien tes meilleurs amis que des plaies purulentes à éviter. Si tu veux. Il n'y a pas de méchant dans cette affaire. J'apprécie le proverbial rasoir de Hanlon, du nom de ce programmateur états-unien Robert G. Hanlon. Ne jamais attribuer à la malveillance que la bêtise suffit à expliquer, ou en tout cas les problèmes systémiques, tu vois. Et j'ajouterais même qu'il n'est pas nécessaire de l'attribuer à la bêtise si l'ignorance peut l'expliquer. Les raisons d'un décalage entre les connaissances de la médecine et ce que nous sommes en droit d'attendre en tant que patients sont nombreuses. La connaissance médicale a énormément évolué ces dernières années, ces dernières décennies. Ça impose que les professionnels se tiennent à jour de ces connaissances. Nous sommes légitimement en droit d'attendre que ces médecins se forment aux nouvelles techniques et surtout que cette formation continue ne soit pas sous influence d'intérêts marchands. Mmh. Ça impose donc que les professionnels soient sensibilisés au fait que les liens d'intérêt influencent grandement à la fois les informations qu'ils reçoivent, mais aussi leurs prescriptions. Plus subtil mais essentiel, la façon d'exercer la médecine a également changé. Nous sommes passés d'un modèle très paternaliste où le professionnel sait et prend les décisions pour un malade qui patiente et qui subit, à un modèle collaboratif dans lequel le professionnel doit proposer des options possibles, bien pesées avec leurs avantages et leurs inconvénients, pour que la personne en souffrance décide le plus possible en connaissance de cause. Or, le modèle collaboratif ne fonctionne que si la relation soignant-soigné est basée sur la confiance et la compétence. Mmh. Alors, rien de nouveau sous le soleil, si tu veux. Il faut donc revenir aux fondamentaux, délivrer une information complète et claire aux patients, respecter le secret professionnel et la décision des intéressés.
Ok, c'est très beau tout ça, mais c'est déjà écrit dans leur code de déontologie, n'est-ce pas?
Bah, c'est ça le côté un peu dramatique de la chose. Il suffirait que les membres de ces professions de santé appliquent leur code et les principaux problèmes seraient réglés.
Resteraient encore les vautours, busards et autres prédateurs.
Tu veux parler de tous les intérêts privés qui gravitent autour du pot commun?
Oui.
Assurance, institut de prévoyance, fonds de pension et consorts. Oui, là j'avoue, il y a du boulot. J'ai peu d'espoir pour cette population proprement dite, pas parce qu'elle est irrécupérable, non. Une majorité de ces gens pensent même sincèrement contribuer sainement à la marge du monde. Je présume juste que prise dans une escalade d'engagement au sein d'une entreprise dont le maître mot est le profit, il est difficile de désobéir aux injonctions sans le payer au prix fort. Alors bien sûr, on peut toujours encourager une personne par-ci par-là à démissionner quand ce qu'on lui fait faire est atroce ou moralement spongieux, mais le problème n'est pas là. Il est à la fois plus intriqué, mais aussi beaucoup plus simple.
Allez, tu me refais une crise lyrique là.
Ouais, mais je veux dire que le problème ressemble à une énorme masse de nœuds. Sais-tu ce que c'est qu'un timon?
À part le copain de Pumba, non, je vois pas.
C'est une pièce de l'avant-train d'un attelage. On raconte que Gordias, un roi mythique de Phrygie en Asie mineure, pour d'obscures raisons, a fait un nœud inextricable avec des cordelettes de cornouiller sur le timon de son char. Une prophétie avait déclaré que quiconque parviendrait à le défaire deviendrait le maître de l'Asie, ou de l'univers, ça dépend des légendes, bon, il y a toutes les versions. Alexandre le Grand, passant par là, regarde le nœud et il le tranche avec son épée. Bon, aussi simple que ça.
Bon, ok. Mais il est où le nez? Le nez, le milieu de la figure. Là. Ce nœud-là, il est où? Et c'est quoi l'épée en l'occurrence?
Ce que je veux dire, c'est que la solution, elle est sous notre nez. Quoi. Une sorte de reset culturel. Il faudrait que les générations qui viennent soient, dès la naissance, nourries, ça serait bien, et soient nourries à l'idée que, dans la mesure du possible, l'intérêt personnel se soumet à l'intérêt collectif. Créons une culture telle que quiconque spéculerait sur la famine ou la santé des autres serait considéré comme un monstre sorti des âges préhistoriques. Aussi bien peu auraient envie de faire ce genre de job dans la prochaine génération et encore moins dans la suivante, tu vois. Mmh. On pourrait commencer ce travail de fond avec les jeunes d'aujourd'hui qui font profession de santé ou de soins, attaquer le mal à la racine en contraignant tout ce beau monde à réfléchir à cette question morale avant de céder à la facilité. Pour quels renoncements éthiques auriez-vous honte de vous regarder dans une glace? Je pars du principe que si l'état déplorable du monde dans lequel je suis arrivé n'est pas forcément et fondamentalement de mon ressort, l'état dans lequel je vais le laisser, lui, il m'appartient. En tant qu'adulte, j'ai une certaine écoute de la part des enfants, en tant que parent aussi, et toutes les personnes qui enseignent, transmettent, écrivent aussi, à moi, avec d'autres, de libérer la jeune génération de représentations égoïstes ou prédatrices, dont moi-même j'ai eu bien du mal à me départir, et qui, si elles furent efficaces au paléolithique, sont absolument injustifiées au XXIe siècle.
Ouais, mais ça serait une forme de propagande comme une autre.
Non, pas du tout, il s'agit pas de fonder une idéologie, il s'agit de montrer l'horizon des possibles, tu vois. Regarde, rien qu'avec ce que je t'ai raconté, t'es mille fois plus avancé que moi au même âge. Si tout le monde prend pour base de minimiser la souffrance collective, ou à minima au moins de ne pas faire chier ses voisins, Je suis sûr que la majorité portera son attention sur les minorités, les individus vulnérables, et en sera fier. Imagine, ce serait l'explosion de tous les plafonds de verre.
Mais quel plafond de verre ?
Bah, c'est une image de sociologue pour pointer les limitations intériorisées de certains groupes. Le fait que peu de femmes se projettent comme conductrices d'engins, par exemple, parce qu'elles ont appris, entre guillemets, appris très tôt que ce n'était pas pour elles, parce que personne n'a nourri cette idée chez elles. Peu de gosses de banlieue se projettent comme élus locaux ou comme notaires. Tu vois. À l'horizon bouché ou obscurci de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, au champ de vision étriqué, je propose l'horizon ouvert, tu vois, la vaste étendue du champ des possibles.
Richard, c'est bien joli ça, mais en face, il y en a qui ont du pouvoir et souhaitent maintenir leurs privilèges.
Si ces gens ont du pouvoir, c'est parce qu'on leur en donne, symboliquement, ou en leur donnant de l'argent, en achetant leurs produits. Minimisons autant que faire se peut leur pouvoir et s'effondreront lentement. Refusons leurs actions, évitons les prêts bancaires, recréons des mutuelles locales. Quand on pense, disait Coluche, qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas.
Tu parles déjà de notre responsabilité individuelle, là. La société, ce n'est pas que la somme des individus.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Relève de la responsabilité de la société quelques leviers sur lesquels notre action est indirecte. Les lois qui déterminent les règles de déontologie, qui fixent la limite de l'exercice légal, illégal de la médecine, dont le contrôle est du ressort de nos élus. Je sais, tu vas me dire qu'au fond, ni les sénateurs, ni les ministres, ni les préfets ne sont élus. Ce sont des vestiges des âges anciens. Je suis d'accord qu'on on peut agir en contraignant nos députés, au moins. En pressurant les potentats locaux, on peut faire remonter des choses et les acter. Pense aux luttes de Marcel Paul, pense aux suffragettes anglaises. Pense que dans ta fac, il y a 50 ans, un noir dans un amphi, c'était aussi incongru qu'une girafe dans un salon de thé et qu'une personne souffrant de handicap ou en situation de handicap n'avait d'autre à venir que comme phénomène de foire. Alors, il y a à faire. On pourrait commencer par resserrer les règles déontologiques avec des vrais moyens coercitifs pour ceux qui y dérogent, faire en sorte qu'on découvre que l'Agence française, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, qui décide de la mise sur le marché des médicaments, grouille de lien d'intérêt, on ne se contente pas de lui mettre du fard à paupières et de changer son nom en NSM. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En fait, c'est exactement la même chose qu'avant, tu vois. On a juste changé le nom. Rien que le fait de rendre obligatoire la déclaration d'intérêt dans les facultés, dans les CHU, pour les professions de santé, sera un petit pas pour les hôpitaux, mais un grand pas pour la sécu et pour nous tous. On pourrait aussi repenser les normes. En deux mots, hein, pas les normes, les normes. L'histoire nous apprend beaucoup. Un couple mixte noir et blanc était contraire aux bonnes mœurs dans les années 60. L'homosexualité était une pathologie mentale il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 1980.
Ouais.
Que tirons-nous de cela ? Que certes, il faut des normes, mais qu'il faut les rediscuter tout le temps. Mineur, à quel âge ? Invalide. Donc, ça veut dire qu'il y a des valides. Valide à quoi ? Tu vois, ça sous-entend quoi ? Une sage-femme, tiens oui, bah, ça peut être un homme. Une nounou aussi, ça peut être un homme. Un charpentier, une femme. Une femme peut être ministre sans que les journalistes se sentent obligés de détailler sa robe et de décliner le nombre de ses enfants, ce qui ne se fait jamais pour des ministres mâles. De quoi la dépendance est-elle faite ? En dépendant de qui ? Dépendant de qui et pourquoi ? Etc. Question, tout ça. Ne prenons rien pour acquis. La caractérisation d'une pathologie, elle aussi regorge de pièges. Tu veux trouver une réponse à l'autisme, mais l'autisme couvre un spectre hyper large. Un trouble mental, idem. Et pourquoi répondre à un trouble mental ? Est-ce au fou, entre guillemets, de se plier à la communauté ? Je pense que c'est à la communauté de s'adapter à ses membres les plus vulnérables. C'était une phrase d'Axel Kahn, ça, d'ailleurs, je me rappelle, il disait ça, Axel Kahn, le médecin. D'ailleurs, par rapport à quelles normes sommes-nous classés dans la folie ? Tiens, regarde, je suis un œuf à la coque.
Pardon ?
Ben, je suis un œuf à la coque, je vis, je sens, je suis certain d'être un œuf à la coque.
Non, Richard, non, je te garantis, t'es pas un œuf à la coque.
Si.
Je comprends rien.
Mais comment tu me garantis que je suis pas un œuf à la coque ?
Mais facile, demande autour de toi, tout le monde te dira que t'es pas un œuf à la coque.
Donc t'es en train de me dire que celui qui se prend pour un œuf à la coque est considéré comme fou simplement parce qu'il est minoritaire ? Cette phrase de Bertrand Russell, ça, dans l'histoire de la philosophie occidentale, page 194, si j'ai bonne mémoire. Donc, tu peux voir ça de deux façons, en fait. La première, c'est de demander qui donne la norme, dont est exclue la personne bizarre, qui décide que les gens intersexes phénotypiques à la naissance, qui ont par exemple un pénis et un vagin, doivent être réassignés tout de suite comme filles ou comme garçons, qui décide que les sourds doivent apprendre à parler quand même, ou se faire appareiller, et non se contenter de gesticuler avec leur langue de signe, là, dont les gens se moquent ou des fois appellent... langage, alors c'est langue, avec des accents et tout. Qui décide que le modèle archétypal des filles est une princesse lascive, rose bonbon ? Qui décrète que le modèle de la vie en société est d'avoir un travail, de se marier, d'avoir des enfants ? La seconde façon revient à ceci. Qu'est-ce que ça peut faire qu'une personne se prenne pour une soupière tant qu'elle ne nuit pas à autrui et qu'elle se réalise ? Qu'une personne s'accomplisse en peignant une fois par semaine le déjeuner des canotiers de Renoir, tu vois, tu te rappelles peut-être dans Amélie Poulain, ou en jouant en ligne toute la nuit en se perfusant de la pizza liquide dans le bras. Notre effet, c'est de condamner, tu vois, de moquer, mais c'est pour justifier à ses propres yeux d'avoir fait les bons choix de vie. On condamne le hors-norme pour mieux se féliciter. Tu vois, quand je croise un mendiant dans la rue, je lui donne souvent des sous, pas parce que j'ai pitié, il veut peut-être pas de ma pitié, et de toute façon, ses nuits sont peut-être plus belles ou moins pitoyables que mes jours, mais parce que je le remercie d'une part de me sortir de mon indifférence, ce qui est une phrase que je crois que j'ai piquée à Henri Gougaud, et d'autre part de m'offrir à un modèle de vie, enviable ou non, que je n'aurais jamais envisagé seul.
Mais ce que tu me dis, c'est une sorte d'éthique personnelle, en fait, ça ne suffira pas à infléchir les grandes structures établies.
Les autres combats sociaux se justifient et se démontrent à condition de s'entendre sur un point préalable. Il vaut mieux, pas toujours, mais souvent, un malade que deux. Il vaut mieux 3 morts que 12. T'es d'accord avec ça ?
Je crois que oui, dans une certaine mesure.
Tu y repenseras, mais si t'es d'accord avec ce principe conséquentialiste, faire en sorte de diminuer la souffrance globale, alors il faut que la société installe ce principe au plus haut des normes. Cela implique en premier lieu que les règles édictées ne soient pas discriminantes. En santé, l'accès aux soins doit être inconditionnel, même et surtout pour les plus fragiles et les plus démunis. Les politiques de santé doivent être menées dans l'intérêt collectif, débarrasser de toute forme d'influence étrangère au bien-être collectif maximal de la population. Mmh. Il faut ensuite sevrer nos systèmes de santé de leur dépendance à des impératifs économiques privés iniques. Combattre le dogme capitalistique qui nous force à considérer comme marchande toutes les sphères du comportement humain. Enfin, et peut-être par-dessus tout, il est urgent de retrouver le sens d'une symbolique commune.
Une symbolique.
Ouais, tu vois, faire en sorte que celui qui paye ses impôts s'enorgueillisse de le faire. Celui qui paye ses cotisations soit fier de prendre soin d'autres mutualisés qu'il ne connaît même pas, au nom de la fraternité, de la sororité, de l'adelphicité, je crois qu'on peut dire ça comme ça. À mon avis, ça passe par plusieurs étapes. La première, je suis favorable à ce qu'il y ait un acte physique de paiement des cotisations et impôts.
Okay.
Selon moi, si tu entends plus souvent les patrons et les professions libérales pester contre les cotisations sociales, c'est parce qu'eux, ils font réellement l'acte de faire un chèque aux URSSAF. Ils ont une vraie sensation de ce que coûte notre système. Je crois que c'est le premier pas pour être fier, c'est sentir. Quand on est salarié, on nous ponctionne en indiquant simplement sur notre feuille de paie, quand c'est le cas, cotisation ou pire encore, on les charge. Tu vois. Mais il n'est jamais venu sur notre compte, cet argent. Nous n'avons pas l'impression qu'il est le fruit de notre effort.
C'est vrai qu'avec les impôts, notamment sur le revenu, lorsqu'on fait le chèque, on le sent passer. On garderait quand même plus volontiers à quoi va servir notre argent.
Et en favorisant la mensualisation de l'impôt sur le revenu, je prends le pari que l'impôt perdra encore de son sens. Et avec le prélèvement à la source prévu, ça risque d'être encore pire. Puisque tu parles de l'impôt, il me semble que, pour le principe, nous devrions tous en payer, même celui qui n'a que le minimum. Et je suis favorable pour qu'on augmente considérablement ce minimum, par ailleurs. J'estime que ça éviterait le mépris des assistés. Tu sais, on sent tout le temps ça. Et nous sentirons tous plus concernés par la chose publique. Je dis aussi qu'on pourrait nous laisser affecter librement une part, voire la totalité de notre impôt sur des dépenses qui nous semblent importantes. Là, on aurait encore davantage le sentiment de contribuer à quelque chose qu'on a choisi. Tous les psychologues sociaux diront qu'on s'investit plus volontiers dans un objectif sur lequel on a des leviers.
Ça fait un peu gadget quand même, non ?
Mais non, détrompe-toi, c'est prouvé, quoi.
Pour lutter contre les déserts médicaux, par exemple, tu proposes quoi ?
Retrouver le sens de la symbolique.
Tu me charries, là.
Non, je suis sérieux, c'est aussi valable pour l'exercice de la médecine. Ça passe sans doute par une modification des méthodes d'apprentissage des étudiants dans les cursus médicaux, par leur redonner le goût de prendre soin. On pourrait aussi souhaiter une modification de la répartition des lieux d'apprentissage sur le territoire. Je veux dire par là que si les formations des étudiants n'étaient pas systématiquement dans les grandes villes, on aurait peut-être une chance, comme c'est le cas au Canada, que les liens sociaux développés lors des années d'études dans les déserts médicaux les encouragent à les investir sans bâton ni carotte. Travailler à la symbolique, c'est aussi s'occuper des professions de santé non médecins, avec à la louche 20 000 sages-femmes, 80 000 pharmaciens, 80 000 kinés, 600 000 infirmiers et infirmières. C'est quand même bien un monde si on n'arrive pas à soulager un peu les cabinets médicaux des petits mots, des suivis de patients chroniques, des actes diagnostiques et thérapeutiques non techniques. Et sur le temps gagné par les toubibs, on les envoie de temps en temps là où il en manque. Soigner et former les étudiants à la campagne, puisqu'on y a délocalisé leurs écoles, souviens-toi, c'était la proposition que je faisais.
Ouais, pas bête, mais ces solutions concrètes, je n'ai pas beaucoup d'influence dessus, moi. À mon niveau, je fais quoi ?
Première étape, la désintox. Être vigilant sur les termes. Reprendre quelqu'un qui nous parle de charges sociales, demander à son employeur que soit inscrit cotisation sur les bulletins de salaire, reprendre ceux qui te parlent de mutuelle quand il s'agit d'assurance. Ce sont autant de petites choses qui nous désintoxiquent progressivement de la logique marchande instillée dans le système.
Ça me plaît, et c'est facile, je trouve. Mais deuxième étape.
Bien, comprendre que les luttes sont collectives et qu'une politique de santé publique n'a de sens qu'à grande échelle, pas seulement pour ta petite personne ou pour ma petite personne à moi. Nous avons déjà discuté de l'individuation des problèmes de santé, qui ont une racine bien plantée dans notre modèle économique, très maltraitant pour les plus faibles. Il s'opère en plus de cette individualisation une forme de culpabilisation du malade, à la fois vis-à-vis de sa maladie dont il est responsable maintenant, et vis-à-vis de la sécu et de son déficit. On dit c'est à cause de toi. Ainsi, il ne faudrait pas se plaindre d'être malade si nous n'avons pas consommé nos 5 fruits et légumes et pratiqué religieusement nos 30 minutes d'activité physique par jour. viendra peut-être le temps où il faudra mériter son traitement en ayant prouvé que nous sommes des malades vertueux.
Ah, n'exagère pas non plus.
Et tu ne crois pas ? Écoute ça, je cite. « Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels ils reposent. » Fin de citation. C'est issu du livre sacré, le Code de la santé publique, qui reprend ici la loi Kouchner du 4 mars 2002. Ça introduit des devoirs de cotisation et de modération. Chacun, je cite, « contribue pour sa part au bon usage des ressources consacrées par la nation à la science maladie. » Fin de citation. Donc s'il y a un trou dans les comptes, c'est sûrement un peu de ta faute.
Ouais, mais on peut pas dire non plus que nous n'y sommes pour rien.
T'as raison. Faut faire le ménage devant notre porte. Arrêter de payer son mécano au noir. Sinon, il n'aura pas de retraite. Ne pas faire de la réduction d'impôts à un sport national. Acheter des produits fabriqués localement auprès d'entreprises qui ne délocalisent ni les emplois ni les bénéfices. C'est sous cette forme qu'elle est concrète, notre responsabilité envers la Sécu. À ceux qui veulent fossoyer la Sécu, ne fournissons ni les pelles ni les pioches. Il faut aussi absolument veiller à ce que les infortunés arrêtent la resquille aux impôts. Les infortunés, les fortunés, pardon, oui. les gens qui ont plein de thunes, quoi, c'est le festival de la resquille. Car c'est l'un des phénomènes les plus tragiques, je trouve, de notre siècle. Moi. Je pense que les générations futures se moqueront gravement de nous, de nous être fait tondre comme des brebis. Après, si on peut, à l'échelle individuelle, limiter la consommation des antibiotiques pour éviter que les générations futures ne meurent de bactéries banales, mais rendues résistantes au traitement, consommer des génériques en attendant d'avoir nationalisé toutes les industries pharmaceutiques, ce qui est mon rêve, déserter les assurances santé privées, se tourner vers de vraies mutuelles, c'est autant de gestes qui bousculent les fossoyeurs et repoussent les attaques des vautours.
C'est joliment dit. Mais enfin.
Eh ben, à nous faire confiance collectivement. À nous de faire gagner du temps aux plus jeunes, qui soient moins ignares que nous. Enfin, eux maintenant, c'est nous avant, plus jeunes. Ces jeunes seront ce que nous sommes, en mieux. L'humanité n'a jamais fait que ça, s'extraire par petits bouts dérisoires et frénétiques de sa gang, de déterminisme social et sexuel, de ses comportements xénophobes et égocentrés, hérités d'un temps où l'étranger était une menace, les climats étaient frisqués et les denrées rares. Quand l'heure du doute sonne, il nous faut repenser aux croisades, Marcel Paul, tout ça et les autres, pour y puiser une certaine force. Quand on y croise une personne vulnérable dans la rue, SDF, pauvre, malade, réfugié, sans papier, prostituée, repenser au vers de Brassens qui disait « Il s'en fallait peu, mon cher, que cette putain ne fût amère. » Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Rappelle-toi, si l'ensemble de l'histoire de l'humanité tenait dans une seule journée, l'heure de l'immense conquête qui était la création de la sécurité sociale, c'est 23h47 le 31 décembre. 23h47.
23h47.